Chers auditeurs, la sorcellerie n'a pas été un phénomène propre au Pays basque. L'Europe entière l'a connue au Moyen-Âge et encore davantage peut-être à la Renaissance. Au Pays basque, il n'a pas été limité au labour. Vers les années 1350, on avait brûlé des sorcières à Saint-Jean-Pied-de-Port, à Las, à Méharin ou à Garis. Au XVe siècle, on avait allumé des bûchers en Ostibarré. Mais au début du XVIIe siècle, les procès de sorcellerie vont prendre au labour une ampleur inconnue jusque-là. À cette époque, aucun intellectuel, aucun scientifique ne met en doute l'objectivité des manifestations extérieures de la sorcellerie, ni la vérité des affirmations des sorciers et des sorcières. Un personnage comme Jean Bodin, l'esprit sans doute le plus distingué de son temps, appelé l'Aristote ou le Montesquieu du XVIe siècle, par ailleurs fort critique à l'égard de la foi chrétienne, croyait à la réalité de la sorcellerie et a même écrit en 1580 un livre qui, plus que tous les autres sans doute, ranima les bûchers à travers l'Europe et même donc au labour. Dans cette province, tout a commencé à Saint-Jean-de-Luz, avec les rivalités de clans qui divisaient la bourgeoisie locale et auxquelles le peuple s'est trouvé mêlé. Ce sont tout d'abord des soupçons de sorcellerie, très vite ce sont des accusations. Catherine de la Masse avance des faits précis contre un partisan du clan opposé au sien. Les accusations se multiplient, l'agitation gagne du terrain, s'aggrave en violence. Le seigneur d'Urtubie et celui de Saint-Pé, chef du clan sur lequel tombent les accusations de sorcellerie, vont provoquer l'envoi d'une commission royale. Le 10 décembre 1608, le roi Henri IV désigne Pierre de Lancre et Jean d'Estagnier, respectivement conseillers d'État et président au Parlement de Bordeaux, pour s'occuper de cette affaire. Le 17 janvier 1609, le roi leur précise la mission à accomplir. Ils auront à instruire les procès, à juger et à sanctionner les délits jusqu'à la peine de mort inclusivement. Le Parlement de Bordeaux trouve excessif ce pouvoir de vie ou de mort donné à la commission et voudra faire modifier le décret en mettant l'adverbe « exclusivement » là où le roi a mis « inclusivement ». Mais Henri IV maintient son texte au nom de l'efficacité et du service à rendre aux labourdins. La mission arrive sur la côte basque au début de juillet 1609, avec à sa tête Pierre de Lancre, Jean d'Estagnier étant retenu ailleurs par d'autres obligations. C'est donc Pierre de Lancre qui va se charger de démasquer et de punir les sorciers. Il le fera avec une ardeur et un fanatisme que n'explique pas le seul souci d'obéir scrupuleusement aux ordres du roi. Pierre de Lancre, qui s'appelait en fait Pierre de Rostegui, était d'origine basque, mais on pense qu'il souffrait de quelques problèmes psychiques, nous dirions aujourd'hui qu'il était mal dans sa peau. Et cela explique sans doute les excès lamentables et les excentricités qui ont marqué l'épuration à laquelle il pensait devoir procéder. De plus, Pierre de Lancre était un admirateur et un disciple de ce Jean Bodin dont nous avons parlé. La commission siégea à Bayonne, à Ustaritz, à Saint-Pé, Asquin, Saint-Jean-de-Luz, Sarre et Cambo. Rien ni personne n'échappait à ces poursuites. Aveux obtenus sous la torture, accusations fantaisistes, récits invraisemblables de chevauchés en compagnie du diable, description minutieuse des sabbats et énumération des participants, tout était pris au pied de la lettre et était propre à alimenter les bûchers. La population, quand elle le pouvait, passait la frontière ou prenaient la mer pour échapper à la rage antidémoniaque de Pierre de Lancre. Le clergé n'était pas épargné. D'ailleurs, pour de Lancre, c'était très simple, tous les prêtres basques étaient des sorciers. Il se vanta d'avoir envoyé au bûcher trois prêtres, un certain Argibel à Asquin, Migalena, âgé de 60 ans et à moitié gâteux, et Pierre Borral, un nouveau prêtre de 27 ans, sur lequel pesait l'ahurissante accusation d'avoir assisté au sabbat la veille de sa première messe. Et pendant ce temps, que faisait donc l'évêque de Bayonne, Bertrand Deschaux? Il est probable qu'il était alors absent de Bayonne. D'ailleurs, il lui était difficile de faire des réserves sur l'accomplissement d'une mission confiée par le roi. Normalement, ces procès auraient dû lui revenir à son tribunal, car la sorcellerie était considérée comme une hérésie. Mais c'était donc le roi qui s'en était chargé. C'est quand Pierre de Lancre s'en prit au clergé que Bertrand Deschaux réagit et se fit remettre les prêtres poursuivis et qu'il les confia à l'officialité, c'est-à-dire à son tribunal, au tribunal ecclésiastique. De Lancre trouvait d'ailleurs l'officialité de Bayonne suspecte et récusable, c'est-à-dire trop indulgente. Il semble que la décision de l'évêque et son attitude de réserve, sinon d'opposition, furent à l'origine d'un changement dans les procédures et surtout dans l'opinion publique. De plus, plusieurs centaines de marins revenus de Terre-Neuve pour hiverner se révoltèrent lors de l'exécution de Marie Bonne à Saint-Jean-de-Luz. Pierre de Lancre dut rentrer chez lui après avoir sévi durant 4 longs mois et laissant derrière lui beaucoup de ruines spirituelles et de cendres. On imagine facilement les blessures qu'avaient provoquées dans les cœurs tant de morts atroces et injustes, les haines qu'avaient suscitées tant d'accusations infondées. À Paris, le père Coton, un jésuite, confesseur d'Henri IV, prit sur lui d'envoyer au labour des missionnaires afin de remédier dans la mesure du possible aux conséquences déplorables de la décision de son royal pénitent. Leur action, l'action de ces missionnaires, fut efficace et appréciée des habitants. Mais le travail d'oubli et de deuil n'était pas totalement terminé 30 ans après. En 1641, Bernard de Haitz, curé d'Ustaritz depuis 1600, donc contemporain des faits, après avoir rappelé l'origine de ces procès, l'altercation de deux habitants de Saint-Jean-de-Luz et d'Acotz, qui s'étaient accusés mutuellement de sorcellerie, après avoir souligné qu'il y eut beaucoup d'exécutés et de brûlés sans grand fondement, pouvait écrire. Le peuple, étant resté grandement blessé, eut beaucoup de peine à se réconcilier et à pardonner, malgré l'action bienfaisante et réussie des missionnaires. Et il ajoute une précision qui montre qu'à cette époque, en 1641, la confiance n'était pas encore revenue. Il y avait une telle méfiance les uns envers les autres que j'ai été contraint, pour obvier au mal qui pouvait en résulter, d'apposer le nom du curé ou du vicaire qui baptisait les enfants au bas de l'acte de baptême, et cela pour prouver que ces baptêmes n'étaient pas faits par des prêtres sorciers. Il faudra encore un certain nombre de procès, par exemple l'année suivante, ceux de Logroño avec les sorcières de Sugaramurdi, pour que peu à peu s'impose aux esprits ce que l'évêque de Worms disait déjà au Xe siècle, exprimant d'ailleurs la pensée de l'Église. Qui peut être assez stupide pour imaginer que ces fantasmes de sorcellerie, fruits de l'imagination, se produisent réellement? Nous poursuivrons la prochaine fois l'histoire du diocèse de Bayonne au XVIIe siècle et nous aborderons l'épiscopat de Mgr Dols.